On prend les mêmes et on recommence. Sébastien Lecornu a dévoilé son équipe gouvernementale tôt ce matin pour nous. Beaucoup de ministres du gouvernement Bayrou retrouvent leur portefeuille. L'opposition fustige l'absence de rupture. Même Bruno Retailleau, pourtant reconduit place Beauvau, menace de démissionner. L'actualité dans la région, un homme ouvre le feu à Sydney, âgé de 60 ans. Il a tiré entre 50 et 100 coups de feu depuis la fenêtre de son appartement. Une vingtaine de blessés à déplorer, dont un grave. L'espoir au Proche-Orient, des négociations s'ouvrent en Égypte entre Israël et le Hamas autour de l'accord de paix formulé par Donald Trump. Ne soyons pas indifférents à la différence, c'est le message porté sur le territoire par le CHS à l'occasion de la semaine d'information sur la santé mentale. Explication dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Et avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, le sommaire du Mag des Sports a retrouvé en fin de ce journal et nous reviendrons tout d'abord, Mickaël Juneski, sur la fin de l'aventure pour les Calédoniens au Mondial de football des moins de 20 ans.
Oui, l'équipe de Nouvelle-Calédonie qui a perdu son dernier match du groupe E contre l'équipe de France. 6-0, c'est l'apprentissage du haut niveau. Après déjà les confrontations contre les États-Unis, perdus 9-1, les Sud-Africains 5-0. Les Cagous peuvent tout de même se satisfaire de cette expérience du très haut niveau, donc engrangée sur les terrains du Chili.
Et puis ce sera l'heure également de faire le bilan du championnat de Calédonie des rallyes.
Ouais, la dernière manche qui se disputait samedi à Bouloupari, à Tomo Valley, un grand final en nocturne. Victoire du duo Kevin Bertoni-Cyril Le Tézer, titre de champion de Calédonie pour l'équipage Hendrik Maui, Frank Kachawan. Nous recevrons le président de la ZNC, Romain Leandro, organisateur des rallyes, pour dresser le bilan de cette saison 2025 et les perspectives pour les années à venir, ainsi qu'un invité de prestige, Maxime Lafont, pilote de rallye en championnat de France des rallyes Terre, leader du trophée national Terre Yaco. Il était de la partie à Tomo Valley.
Et puis on reparlera de football sur la scène nationale et internationale avec le PSG qui retrouve sans briller la tête de la Ligue. Et
qui retrouve surtout un ancien du club, Ethan Mbappé, désormais Lillois, qui évoluait sous les yeux de son frère Kylian, venu assister au match. Ethan Mbappé qui a inscrit le but égalisateur de Lille pour enlever la victoire au PSG dans la fin du match. Un but partout, c'est tout de même suffisant pour Paris qui repasse en tête du championnat.
Et rendez-vous donc à la fin de ce journal pour le Mag des Sports. À la une de l'actualité ce midi, un nouveau gouvernement, mais un gouvernement en sursis. C'est ce qui fait donc la une. À peine nommé, le gouvernement de Sébastien Lecornu est fragilisé par les oppositions, mais surtout par les réticences des Républicains qui pourraient renoncer à y participer. Elisabeth Noir.
Le gouvernement Lecornu ressemble beaucoup au gouvernement Bayrou, avec de nombreuses reconductions. Parmi les rares nouveautés, l'arrivée du macroniste Roland Lescure à Bercy et le retour surprise de Bruno Le Maire aux armées. C'est à 5h ce matin pour nous que le secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, a dévoilé 18 noms du nouveau gouvernement. La plupart sont connus, avec la reconduction de 12 ministres de la précédente équipe. Bruno Retailleau à l'intérieur, Gérald Darmanin à la justice, Elisabeth Borne à l'éducation nationale, Manuel Valls aux Outre-mer, Catherine Vautrin au travail et à la santé, Annie Genevard à l'agriculture, Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères, Rachida Dati à la culture, Agnès Pannier-Runacher à la transition écologique. La liste sera complétée par des ministres délégués après la déclaration de politique générale du Premier ministre, qui est prévue mardi à l'Assemblée nationale et mercredi au Sénat. Il aura donc fallu 3 semaines de consultation pour reconduire pratiquement à l'identique le gouvernement qui s'est fait renverser. Mais pour Sébastien Lecornu, il s'agit d'un gouvernement de mission. Jacques Serret pour Europe 1.
Matignon défend un gouvernement de mission. Le premier objectif est de faire adopter un budget pour la France avant la fin de l'année, décrypte l'entourage du Premier ministre. Sébastien Lecornu veut s'appuyer sur une équipe gouvernementale avec de l'expérience, d'où le retour de Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie nommé ministre des armées. Un pari extrêmement périlleux puisque la promesse de rupture n'est pas tenue. 16 des 18 ministres nommés ont déjà été ministres ces dernières années. Les bras nous en tombent, réagit Marine Le Pen. On prend les mêmes et on recommence, fustige Éric Ciotti, le président de l'Union des droites. Même son de cloche du côté du Parti socialiste, chez les Verts et chez les Insoumis. Conséquence, avant même le premier conseil des ministres cet après-midi, les jours de ce gouvernement sont déjà comptés.
Le problème, c'est effectivement qu'à peine dévoilé, le gouvernement Lecornu semble déjà très menacé. La gauche et le Rassemblement national, qui attendaient une rupture, accueillent très fraîchement cette vague de reconduction ministérielle. Et les premières réactions sont très négatives. Le chef des députés du PS, Boris Vallaud, dénonce l'obstination des macronistes, qui plonge chaque jour un peu plus le pays dans le chaos. Pour le député européen PS, François Calfon, les jours du gouvernement sont comptés.
On assiste à une fin de règne en direct, hein, suicide en direct. Et derrière ça, il y a à minima une crise de régime, si j'ose dire. On voit mal comment les replâtrages en catimini demain matin, si tant est que les Républicains puissent s'entendre entre eux, suffiront à donner un budget à la France. Tout ça est absolument affligeant et je pense que nos regards ce soir se tournent vers Matignon, mais dès demain matin ou au milieu de la nuit, ils se tourneront vers l'Élysée.
De son côté, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ironise sur un cortège de revenants à 80% de LR et anciens LR embauchés pour continuer une politique qui a provoqué tant de souffrances populaires. La France insoumise qui promet la censure pour les prochains jours. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, renouvelle quant à lui ses menaces de censure et Marine Le Pen se moque du retour pathétique de l'homme qui a mis la France en faillite, c'est-à-dire Bruno Le Maire. Des critiques relayées par Mathieu Vallée, député européen du Rassemblement national.
On prend les mêmes, on recommence. On n'a pas eu de dissolution par Emmanuel Macron et donc on a la résurrection Le Cornu avec des ministres qui ont été censurés par nos députés lors du vote de confiance qu'on n'a pas voté. Puis on en remet les mêmes. Donc il n'y a pas de rupture telle qu'annoncée par M. Le Cornu. Hein. On est sur une continuité. Donc c'est un premier carton jaune et mardi on verra si on met le deuxième carton jaune ou pas en fonction de la déclaration de politique générale. On va voir si les mesures budgétaires qu'on a proposées lors de l'entretien de Marine Le Pen vendredi à M. Le Cornu à Matignon vont être suivies. Mais on a peu d'espoir.
Mais c'est du côté des Républicains qu'est venue la bombe du jour. Après de longues tergiversations, le parti avait finalement opté pour une participation exigeante au gouvernement. Mais peu après la publication du nouveau gouvernement, le président des LR, Bruno Retailleau, s'est insurgé publiquement contre sa composition, qui, dit-il, ne reflète pas la rupture promise. Il se dit qu'il aurait découvert la nomination de Bruno Le Maire, dont Sébastien Lecornu ne l'avait pas informé, et qui fait figure d'épouvantail comme l'un des responsables du déraillement de la dette. Bruno Retailleau a convoqué le comité stratégique de LR pour lundi matin, ce qui laisse possible un retrait des Républicains du gouvernement. Ce serait alors un gouvernement mort-né. Tout est possible, assure Franck Louvrier, maire LR de la Baule.
Bien sûr, tout est possible. Bien évidemment que les LR n'ont pas donné un quitus pour rentrer ou rester au gouvernement. Les LR sont là pour essayer de faire avancer les choses. Moi, je souhaiterais qu'il y ait de la stabilité dans le pays. Je souhaiterais que certains s'entendent pour faire avancer le pays. C'est ça l'enjeu. Mais si les conditions ne sont pas satisfaisantes, eh ben très bien, on arrivera vers une dissolution. Ce qui était à peu près prévu par tous les gens raisonnables. On le voit très bien. Malheureusement, on peut aller vers les urnes. C'est pas une catastrophe d'aller vers les urnes. Vous savez, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans des situations de crise. Donc, il faudra bien que les Français, d'une façon ou d'une autre, redonnent leur avis sur la situation. Je le regrette, mais malheureusement, je crains que ce soit la voie inéluctable.
La situation est donc très incertaine et très instable, et les heures qui viennent seront décisives. Ce lundi à Paris, le Rassemblement national se réunit à 11h pour décider de censurer ou non le gouvernement. Les Républicains se réunissent à 11h30 pour décider de leur maintien ou non au sein du gouvernement. Dans le même temps se dérouleront les passations de pouvoir dans les quelques ministères concernés. Et à 16h aura lieu le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Un gouvernement véritablement en sursis. La déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu aura lieu mardi. Et les éventuelles motions de censure seront débattues jeudi soir ou vendredi à l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement Lecornu pourrait être l'un des plus brefs de l'histoire.
Et en Nouvelle-Calédonie, les premières réactions sont pour se féliciter du maintien de Manuel Valls, mais aussi pour souhaiter la stabilité gouvernementale indispensable au processus de Bougival. C'est ce que déclare le député Nicolas Metzdorf.
Satisfaction que le gouvernement ait enfin été nommé, parce que vous savez que sans gouvernement, on ne peut pas passer les textes relatif à l'accord de Bougival à l'Assemblée nationale et au Sénat. Désormais, le dossier calédonien va pouvoir avancer, d'autant que Manuel Valls a été reconduit au ministère des Outre-mer et il avait à cœur de mettre en œuvre l'accord qu'on avait trouvé ensemble à Bougival. Donc j'espère que ce gouvernement va tenir le plus longtemps possible, le temps que le dossier calédonien puisse aller jusqu'au bout. Il faut que les Calédoniens comprennent une chose, c'est que plus il y a de l'instabilité en métropole, plus il y a un risque de censure de ce gouvernement, plus il y a un risque de dissolution, moins la Nouvelle-Calédonie va pouvoir se relever de la crise, parce qu'il n'y aura pas d'accord politique d'entériné à l'Assemblée, il n'y aura pas de budget pour relancer l'économie en 2026. Donc nous, on a absolument besoin de stabilité à Paris.
Un soulagement aussi pour Sonia Backès, mais la chef de file des loyalistes souhaite surtout une stabilité du gouvernement Lecornu.
Ce qui est important pour la Nouvelle-Calédonie, c'est surtout la continuité avec Manuel Valls qui a vocation à poursuivre la mise en œuvre de l'accord de Bougival, et Bruno Retailleau qui nous accompagne en termes de sécurité et en termes de sécurisation des bureaux de vote dont on va avoir besoin compte tenu des échéances qui arrivent. Et après, au niveau national, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ce gouvernement tienne de manière à apporter de la stabilité à la France. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les ministres qui sont nommés, ce qui est important là, c'est de limiter l'instabilité. Je vois les oppositions s'agiter. C'est vrai que si ce gouvernement venait à nouveau à tomber, ça rajouterait encore de l'instabilité et ce serait pas bon ni pour la France ni pour la Nouvelle-Calédonie.
Et sur sa page Facebook, Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement au Congrès, parle de deux bonnes nouvelles pour la Nouvelle-Calédonie. Le fait que Bruno Retailleau reste ministre de l'Intérieur, ce qui permettra de poursuivre l'excellent travail en matière de forces de l'ordre pour assurer la sécurité des Calédoniens. Et le maintien de Manuel Valls aux Outre-mer, ce qui stabilise la mise en œuvre du processus de l'accord de Bougival. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous satisfait que Manuel Valls soit reconduit au ministère des Outre-mer ? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1. Si vous ne l'êtes pas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. En attendant, il est 11h, passé de 41 minutes. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Douleur articulaire ou musculaire, mal de dos, mal de genou, le roller pur essentiel articulation et muscles réduit immédiatement et durablement la douleur grâce à sa bille massante et ses 14 huiles essentielles. C'est cliniquement prouvé. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Et pour la préparation et la récupération musculaire, découvrez l'huile de massage Arnica Golteri Pure Essentielle avant et après l'effort.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
L'actualité politique est à la une en Nouvelle-Calédonie avec la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
On n'y comprend plus rien. Désormais, seuls les experts en droit public et constitutionnel peuvent commenter l'actualité politique. Sauf que, ils ne sont la plupart du temps pas d'accord entre eux, ce qui, si besoin était, complexifie encore la situation. Quelques questions que l'on soumet à leur sagacité. Christian Théin peut-il revenir en Nouvelle-Calédonie malgré l'appel formé par le parquet de Paris contre la décision des juges d'instruction d'assouplir le contrôle judiciaire du leader de la CCAT et président du FLNKS ? Eh bien la réponse est oui et non. Oui, il pourrait rentrer sur le territoire parce que l'appel n'est pas suspensif, mais non, il ne peut pas prendre le risque de rentrer parce que si la chambre d'instruction donne raison au parquet, il devra repartir. Sans compter que la pétition pour s'opposer à son retour dans les conditions actuelles a dépassé les 10 000 signatures, mais là, ce n'est plus juridique. Sans oublier non plus qu'il n'a peut-être pas intérêt à quitter la métropole où il est adulé par LFI et autres révolutionnaires de pacotille, qu'il l'exhibe dans toutes leurs manifestations alors qu'il est loin de susciter le même engouement en Nouvelle-Calédonie et que même chez ses amis indépendantistes, beaucoup préfèrent qu'il reste là-bas. Autre question plus épineuse encore pour nos experts en droit, Jacques Lallier peut-il conserver ses mandats de conseiller de la province des îles et du Congrès et son fauteuil de président de province ? Là, ça tourne au casse-tête et pour l'instant, personne n'a la réponse. Condamné en appel à 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, Jacques Lallier avait été démissionné d'office par un arrêté du haut-commissaire qu'il a contesté en déposant une question prioritaire de constitutionnalité. L'exécution provisoire, c'est, vous le savez, cette disposition qui prévoit l'application d'une sanction pénale, même si l'intéressé fait appel, et elle fait débat au niveau national, notamment pour Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen. Mais Jacques Lallier s'appuyait sur le fait que, selon le Conseil constitutionnel, un parlementaire ne peut être déchu de son mandat tant que sa condamnation pénale n'est pas définitive. Et il arguait du fait que les membres du Congrès votent des lois du pays et peuvent donc être assimilés à des parlementaires. Dans sa sagesse, ça lui arrive parfois, le Conseil constitutionnel a déclaré que seuls les membres du Parlement, qui comprend l'Assemblée nationale et le Sénat, participent à l'exercice de la souveraineté nationale. En clair, n'en déplaise à certains, le Congrès n'est pas un Parlement et ses élus ne sont pas des parlementaires. La souveraineté nationale ne se partage pas et cette appréciation est à la fois juridique et politique. En conséquence, le Conseil constitutionnel juge que l'exécution provisoire s'applique bien aux élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais Jacques Lallier devrait néanmoins conserver ses mandats dans l'attente de la décision du Conseil d'État devant lequel il a formulé un autre recours. Toujours est-il que la situation de Jacques Lallier est scrutée avec attention, notamment par Philippe Gomez, qui a été condamné à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Il a, lui aussi, déposé une question prioritaire de constitutionnalité qui est en cours d'examen au Conseil d'État. Elle porte sur une éventuelle rupture d'égalité entre plusieurs collectivités d'outre-mer, où l'exécution provisoire ne s'applique pas, et la Nouvelle-Calédonie. Mais dans sa réponse à Jacques Lallier, le Conseil constitutionnel a déjà écarté l'argument selon lequel les élus calédoniens ne sont pas traités à égalité avec leurs homologues polynésiens. Et c'est donc la troisième question du jour. Le leader de Calédonie Ensemble peut-il conserver ses mandats ? Et la réponse est au moins aussi politique que juridique.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver dans le Tout Info cet après-midi à 16h sur Radio Rythme Bleu ou alors sur notre site internet le www.rrb.nc. Sensibiliser le grand public à l'importance de la santé mentale, c'est l'objectif de cette semaine d'information organisée par le CHS Albert Bousquet. Pendant 5 jours, des histoires atypiques sont mises en avant à travers des conférences et des rencontres. Et la première a lieu ce soir à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Charlotte Coulson.
Et pour notre santé mentale, réparons le lien social. C'est le message qui est porté cette année au niveau national. Un message que le CHS Albert Bousquet souhaite diffuser sur le territoire. Et pour ce faire, une semaine d'information a été organisée, riche de rencontres et d'échanges. L'objectif est de changer de regard, écouter, comprendre et dialoguer, selon Delphine Sœur, infirmière en réhabilitation sociale au CHS et coordinatrice de la semaine d'information.
C'est une thématique qui est importante dans le sens où effectivement la santé mentale, on est tous concernés, hein, on en a tous une, hein, comme on a une santé physique, et qu'il est important de s'en occuper pour essayer de vivre mieux les aléas de la vie. C'est vraiment l'objectif, c'est de déstigmatiser, de travailler autour des préjugés que peut véhiculer aussi la société. Plus on a d'informations, plus on sait où aller pour se prendre en main, plus la population sera informée sur les troubles, mieux ce sera.
Et justement, pour informer la population, de nombreuses rencontres sont organisées pendant 5 jours. Une première conférence se tient ce soir à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Plusieurs professionnels du secteur aborderont la question du rétablissement des personnes atteintes de troubles psychiques.
L'intervention de 2 psychiatres du CHS, de ma collègue neuropsychologue avec qui je collabore étroitement. Ah oui, et puis une personne ressource aussi, une personne qui vit avec un trouble psychique qui est rétabli, qui viendra témoigner également de son parcours. Demain, on sera de nouveau sur l'UNC toute la journée avec un village santé mentale. Le mercredi, on a un peu la même chose dans le hall du Medipôle avec un stand supplémentaire qui sera autour de l'enfance et de l'accompagnement en pédopsychiatrie. Et puis le vendredi, nous serons sur le marché de Port-Moselle avec des créations artisanales et horticoles, des ateliers thérapeutiques du CHS. Voilà.
Et le programme complet de la semaine d'information sur la santé mentale est à retrouver sur la page Facebook du CHS Albert Bousquet. Tous les événements sont ouverts au public.
Et puis pendant ce temps-là, il y a aussi une semaine consacrée aux personnes âgées. Le CCAS de la ville de Nouméa organise la semaine bleue des seniors. Le but est de lutter contre leur isolement et de favoriser le lien social. Différentes activités se dérouleront tout au long de cette semaine. Et pour le lancement, un karaoké est organisé cet après-midi de 13h30 à 15h à l'ACAPA. Entrée libre et ouverte à tous. Pour toutes informations, vous pouvez contacter le CCAS au 27 07 86, le 27 07 86. Et puis c'est aussi le top départ de la 3e édition du CIPAC Challenge. 243 entreprises calédoniennes, soit près de 3000 collaborateurs, se sont inscrits cette année pour tenter de décrocher la première place de ce défi sportif, Léana Colombo.
Et oui, il s'agit d'un record de participation. À titre comparatif, en 2023, lors de la dernière édition, 152 entreprises et près de 2600 collaborateurs avaient réalisé des défis dans ce tournoi sportif qui incite les participants à bouger davantage dans leur quotidien. Une manière originale de renforcer les liens entre collègues tout en faisant du sport. L'entreprise Autodis avait remporté le trophée Sport Santé lors de la dernière édition. L'équipe remet donc cette année son titre en jeu, mais Jean-Baptiste Nanine, l'un des vainqueurs, ne manque pas de motivation pour tenter le doublé.
Ils vont avoir du mal cette année encore. on pense qu'on va être aussi opérationnel qu'il y a 2 ans de ça, c'est ça. Pendant des zones creuses, on avait le temps aussi d'aller faire nos pas à l'intérieur de l'entreprise, faire des choses comme ça, des activités un peu sportives à l'intérieur. Oui.
Vous étiez à combien de pas à peu près?
Allez, 20 quelques mille pas.
C'est énorme.
Oui, ouais, on allait jusqu'à minuit des fois. Ouais, ça prend notre temps, mais bon, après, ça vaut le coup quand même. On attendait que ça. D'ailleurs, il y a notre responsable derrière qui nous mettait au défi. Et on l'attend aussi cette année. On essaie de prendre des décisions là, ouais. On va se demander comment faire. Mais je pense que le véhicule va peut-être rester à la maison. Ça va, on habite Rivière-Salée, c'est pas très loin.
Pour comptabiliser les points du CIPAC Challenge, il faut être muni de son smartphone et télécharger l'application Keepline. C'est là que tous les défis seront enregistrés, explique Pierre Massenet, directeur général du groupe CIPAC.
Il y a plusieurs façons de gagner des points, donc la marche, le vélo, et également des séances à la maison, puisqu'il y a du yoga, du renforcement musculaire, des étirements, du pilates. Donc il y a des sessions qu'on peut suivre en live ou en rediffusion sur l'appli. Il y a un événement physique à la fin du challenge, donc le 18 et 19 octobre, le BNC Beach Festival, sur lequel il faudra se rendre physiquement. Et puis bon, que les défis tout au long, on a par exemple des alliances inter-entreprises ou à l'inverse des duels dans lesquels plusieurs équipes vont s'affronter en direct. Il y a des challenges sur la régularité, il y aura des quiz, il y aura des jours où les points comptent double. Donc voilà, plusieurs challenges sur ces 15 jours pour garder les équipes motivées, garder l'esprit de compétition, pour se donner à fond pour ce challenge.
Le nombre de points possibles de gagner chaque jour est limité pour laisser une chance aux moins sportifs de remporter un prix. C'est ainsi la régularité qui prime plutôt que la performance. Notez que l'application met parfois un peu de temps à s'actualiser, mais que tous les défis sont comptabilisés. Le challenge s'achèvera le 20 octobre prochain.
Merci beaucoup Léana Colombo. On reparlera de sport un petit peu plus tard dans ce journal. Mais avant cela, il est 11h passé de 51 minutes. Une courte pause de publicité et ensuite l'actualité dans le monde et notamment dans la région avec cet homme de 60 ans qui a tiré entre 50 et 100 fois depuis la fenêtre de son appartement à Sydney.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Dimanche 12 octobre, c'est la fête de la science au Parc provincial zoologique et forestier. Le thème, les intelligences comme celle de notre célèbre corbeau calédonien. Au programme, jeux de piste, expositions, nourrissage et visites guidées animées par des ornithologues passionnés et passionnants. Saurez-vous relever le défi de l'intelligence et remporter les nombreux lots mis en jeu? Venez tenter votre chance dimanche 12 octobre au Parc provincial zoologique et forestier. L'entrée et les animations sont gratuites. Marché vivrier et restauration sur place. La province sud. Agir pour l'avenir.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
La suite d'Infomag, direction l'Australie, on retrouve Nicolas Legrand.
Et la nuit dernière, un homme de 60 ans a ouvert le feu dans une rue de Sydney. Il a littéralement tiré sur tout ce qui bougeait depuis son appartement du premier étage d'un immeuble d'habitation. C'est la correspondance ce midi de Jean-Pierre Zajac.
L'incident a eu lieu hier soir lorsque des coups de feu ont été tirés de la fenêtre d'un appartement de Croydon Park, l'un des quartiers situés à l'ouest du centre des affaires de Sydney. Plusieurs passants aurait été plus ou moins gravement blessé durant la fusillade, laquelle a également endommagé un certain nombre de voitures. Rapidement accourus sur les lieux, les policiers ont investi l'appartement en question et ont procédé à l'arrestation d'un homme de 60 ans, trouvé en possession de plusieurs fusils de gros calibre. Un porte-parole de la police a indiqué que l'individu aurait tiré entre 50 et 100 coups de feu avant d'être maîtrisé. Il aurait été légèrement blessé lors de son arrestation et a donc été placé en observation surveillée à l'hôpital. Ce n'est donc que lorsqu'il aura été formellement interrogé que l'on saura si l'incident en question est un acte de terrorisme ou l'œuvre d'un simple déséquilibré mental. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Infomag, 11h54.
Une marche blanche dans les rues de Paris la nuit dernière, rassemblement pour demander une nouvelle fois la libération des otages israéliens retenus à Gaza près de 2 ans après l'attaque du 7 octobre 2023. Un rassemblement sous le signe de l'espoir avec ces négociations qui viennent de s'ouvrir entre Israël et le Hamas. Un reportage de Laura Legault pour Europe 1.
Ils sont nombreux à brandir les photos des Israéliens toujours aux mains du Hamas, comme Eviatar David. Son frère, Eli David, était présent dans le cortège.
Nous avons eu un signe de vie il y a 2 mois. Nous l'avons vu dans une vidéo publiée par le Hamas. Il était dans un tunnel en train de creuser sa propre tombe. Donc nous savons que les otages n'ont plus beaucoup de temps. Et nous sommes venus ici pour être avec les Français et sentir leur soutien.
Parmi les manifestants, de nombreux membres de la communauté juive, mais aussi des Français musulmans ou catholiques, comme Nathalie.
Ils devaient être là avec les Français juifs. Je tenais, c'est vraiment quelque chose de profond, et d'être à cœur avec eux en ces périodes difficiles.
La retraitée s'indigne de la hausse des actes antisémites en France. Depuis 2 ans, beaucoup de juifs déplorent un climat insoutenable. Emeline, drapeau israélien et français dans les mains, pense même quitter son pays natal pour aller s'installer en Israël.
Il y a un discours ambiant, une ambiance vraiment délétère, mauvaise, pleine de haine. Moi, ça me fait très peur pour demain. Comme beaucoup de juifs, alors que moi, j'ai toujours dit la France est mon pays dans lequel je suis née, dans lequel je me vois mourir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est ici, mais que peut-être on ne mourra pas ici. C'est quelque chose auquel je pense de plus en plus.
Cette marche a redonné espoir à toute une communauté juive unie face aux manifestations pro-palestiniennes qui se multiplient partout en Europe.
Et ce rassemblement à Paris faisait écho à un hommage rendu en Israël, hommage particulièrement poignant à 2 jours du 2e anniversaire du massacre du 7 octobre. Beaucoup de rescapés étaient présents, notamment Maïtal, 24 ans. Elle a perdu beaucoup de proches le 7 octobre et elle a failli elle-même mourir. Écoutez son témoignage recueilli par l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv, Antoine Bienvaux.
Quand on est arrivé à notre voiture, on s'est retrouvés dans un énorme bouchon, car tous les festivaliers fuyaient. Les terroristes sont arrivés derrière l'embouteillage et ils ont commencé à nous tirer dessus. Je voyais des gens courir partout pour sauver leur vie. Moi, j'étais dans ma voiture et sur le moment, j'étais persuadée que j'étais protégée. Mais en y repensant, les jours d'après, j'ai réalisé que ma voiture ne m'aurait pas sauvée s'il m'avait tiré dessus. Grâce à Dieu, dans ma voiture, personne n'a été blessé. Mais dans les 2 autres voitures où il y avait mes amis, ils ont tous été tués.
Maïtal, israélienne rescapée des massacres du 7 octobre. Et sur le front des négociations maintenant, Donald Trump, vous le savez, a posé un ultimatum au Hamas pour accepter son plan pour la paix. Plan qui prévoit donc la libération de tous les otages encore détenus dans la bande de Gaza. Des pourparlers informels ont eu lieu aujourd'hui en Égypte et se poursuivront la nuit prochaine avec évidemment des délégations du Hamas et d'Israël. Toujours à l'étranger, cette attaque russe d'ampleur sur l'Ukraine, 50 missiles et environ 500 drones lancés sur plusieurs régions du pays. D'après le président ukrainien, à Lviv, dans l'ouest du pays, 4 personnes ont été tuées dans ces attaques. À Zaporijjia, dans le sud, 1 personne est décédée. Les infrastructures électriques ont été touchées, ce qui a entraîné des coupures de courant dans ce secteur. Et dans ce contexte de tension qui ne retombe toujours pas en Ukraine, les États-Unis réfléchissent à envoyer des missiles de longue portée, Tomahawk, ou plutôt de les vendre à des pays européens qui ensuite les livreraient à Kiev, puisque Donald Trump ne veut pas que la guerre en Ukraine coûte un seul centime aux contribuables américains. Une question des missiles de croisière qui fait débat au sein même des pays européens à cause du risque d'engrenage pour la guerre. Les Ukrainiens ne veulent pourtant pas perdre de temps et ils entendent désormais développer eux-mêmes leur propre capacité industrielle. L'armée ukrainienne qui prépare son propre missile longue portée, William Molinier.
Son nom, le Flamingo, un missile de croisière développé par une entreprise ukrainienne et produit sur le sol ukrainien. Il mesure 6 mètres de long, peut emporter jusqu'à 550 kilos d'explosifs pour une portée estimée à 3000 kilomètres, le double qu'il n'en faut pour frapper Moscou. Il peut être tiré depuis le sol ukrainien, donc c'est plus difficile à détecter pour les Russes. En clair, le Flamingo va 10 fois plus loin et est 2 fois plus lourd que le missile Scalp fourni par la France. Les Ukrainiens veulent réduire leur dépendance industrielle aux armements occidentaux dont les livraisons et surtout les autorisations d'emploi sont suspendues aux décisions politiques des gouvernements. Cette volonté de gagner en souveraineté stratégique pour Kiev qui entend renforcer sa position en cas de négociation avec le Kremlin et montrer aux Européens les plus frileux à s'engager à ses côtés que son armée est robuste. Ce nouveau missile a été testé avec succès durant l'été. L'objectif des autorités ukrainiennes est de produire au moins 200 unités chaque mois.
William Molinier pour Europe 1, 11h59. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, c'est la fin de ce journal.